Nous sommes dans la période de l'action de grâce, ou de Thanksgiving, comme disent les voisins. Et je crois que c'est tout à fait approprié d'avoir un moment dans l'année où nous pensons aux bienfaits que nous avons reçus de la part de Dieu. C'est approprié de savoir dire merci, de ne pas prendre pour acquis tous les biens que nous avons, tout ce dont nous jouissons chaque jour. Le monde chrétien va dire merci, va penser à Dieu. Va penser à Dieu et remercier Dieu pour les choses dont nous jouissons chaque jour. Merci pour le pain sur notre table. Merci pour le toit sur notre tête. Merci pour le travail que nous avons, pour ceux qui en ont. Merci pour la famille que nous pouvons avoir. Merci pour les belles couleurs de l'automne. Et puis merci pour la dinde à qui on a coupé le cou et qui est sur notre table aujourd'hui. On va même remercier le Seigneur pour les choses dont nous jouissons chaque jour. Et je crois effectivement qu'il est bien d'apprendre à remercier Dieu qui nous donne la force pour acquérir toutes ces choses. Nous avons en tant que chrétiens de bonnes raisons de remercier Dieu. Et en demandant aux uns et aux autres, on pourrait avoir de multiples raisons qui vous sont personnelles de rendre grâce à Dieu pour ses bontés. Cependant, en tant que chrétiens qui avons l'assurance de vivre à la fin des temps, je crois que nous avons aussi des raisons supplémentaires d'être reconnaissants envers Dieu. Des raisons peut-être que d'autres chrétiens n'ont pas encore entrevues. Et j'aimerais ce matin avec vous regarder dans les Écritures des raisons supplémentaires de rendre grâce à Dieu aujourd'hui. J'aimerais trouver ces raisons dans un récit de l'Ancien Testament que vous connaissez bien, et qui est le récit du déluge, qui se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, 6 à 9. Le déluge, qui est un événement historique, qui a réellement eu lieu, donne de nombreuses raisons de croire dans la puissance et dans l'intervention de Dieu. L'histoire de Noé, qui est devenue presque une légende, malgré le fait qu'il s'agisse là d'un événement réel que l'histoire nous rapporte. L'histoire de Noé nous offre l'occasion de découvrir la puissance de Dieu et aussi la puissance de ses promesses. Je vous propose d'ouvrir le livre de la Genèse dans le chapitre, au chapitre 6, où se trouve là le début de l'histoire du déluge. Le récit du déluge est un récit qui se présente en trois grands moments, en trois grands chapitres. D'abord, au chapitre 6, il est question des préparatifs du déluge, de ce qui s'est passé juste avant le déluge. Il nous est dit, par exemple, au verset 5, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Quand on se trouve dans une situation semblable, on se demande ce qui reste comme espoir. Les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Il n'y a plus de place pour le bien nulle part. En fonction de cette situation-là, Dieu va choisir de détruire la terre. Et au verset 17, il nous est dit « Moi, dit Dieu, je vais faire venir le déluge sur la terre » pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Voilà ce que Dieu choisit au vu de la situation du monde, où il n'y a plus rien de bon. Et Dieu dit, voilà, je vais envoyer le déluge sur la terre. Le mot qui est employé dans ce texte de l'Ancien Testament est un mot particulier. Il y a toutes sortes de mots qui sont utilisés pour parler d'inondations locales ou de catastrophes. Mais ce terme-là désigne véritablement une catastrophe planétaire. Et c'est un mot assez comique que nous connaissons, que nous employons parfois. Le mot déluge, dans l'original de notre texte, c'est le mot Maboul. Dieu envoie le Maboul sur la terre. Et je crois vraiment que la terre était tellement Maboul qu'il n'y avait plus qu'une chose à faire, c'est d'envoyer le Maboul pour la détruire. Et c'est ce que Dieu va faire. Mais il va aussi choisir un homme qui lui fait exception dans le paysage de l'époque. C'est Noé, et il nous est dit au verset 9 que Noé était un homme juste, intègre en son temps, et qu'il marchait avec Dieu. Ces expressions, nous les connaissons parce qu'elles sont employées ailleurs dans les Écritures, et en particulier à propos de Hénoc. Et vous vous souvenez que Hénoc n'a vécu que 365 ans par rapport aux gens de son temps qui en vivaient 900, parce que, nous dit le texte, Dieu le prit. Hénoc marchait avec Dieu. Noé est un homme de cette même catégorie-là. Il marchait avec Dieu. Dieu aurait pu le prendre aussi. Dans un sens, c'est ce que Dieu a fait. Dieu le choisit dans cette génération-là pour être son instrument au moment du déluge. Dieu va donner à Noé des instructions. Des instructions pour construire la fameuse arche dont on parle tant. Il va donner les dimensions, il va donner les instructions pour savoir comment la construire. Il va lui expliquer qu'elle va servir à recevoir les animaux pour les sauver du déluge, et lui aussi. Et puis il va lui indiquer la nécessité de faire des provisions de nourriture pour tout ce monde-là. Et finalement, il va dans cette première partie donner à Noé une instruction particulière. C'est au verset 18, où Dieu dit à Noé, « Moi, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » Ce qui est extraordinaire, c'est qu'au moment où Dieu donne cette promesse à Noé, il n'a pas encore d'enfant. Dieu voit à l'avance. Et Dieu montre à Noé qu'il sait, qu'il conduit, qu'il dirige, et que lorsqu'il fait une promesse, il a les moyens de l'accomplir. Il dit, « J'établis mon alliance avec toi. » Une alliance par laquelle Dieu va protéger Noé et sa famille dans cette génération où il n'y a plus rien de bon. Ça, c'est la première partie du récit. C'est l'introduction, c'est l'avant-déluge, c'est la préparation au déluge. Le chapitre 7, cette fois, c'est le récit du déluge en soi. Dieu va expliquer à Noé que ce déluge d'eau va durer 40 jours et 40 nuits. Il va pleuvoir pendant ce temps avec force. Et Noé va devoir rentrer dans l'arche. Les animaux vont rentrer. Dieu va les faire rentrer dans l'arche. Et Dieu va inviter Noé aussi à y rentrer lui-même. Noé, pendant tout le temps où il construit cette arche, invite ceux qui sont autour de lui à participer à ce projet et à se joindre à lui. Mais pendant 120 ans, il n'arrivera à convaincre personne, si ce n'est les siens, de monter dans l'arche avec lui. Noé va rentrer dans l'arche et le texte nous donne un détail intéressant. C'est Dieu qui enferme la porte. Il va se passer ensuite quelque chose d'intéressant. Imaginez ce bateau au milieu des champs et autour tous ces gens qui rigolent à mourir de ce fou Noé qui construit un bateau là où il n'y a pas d'eau. Tout le monde rigole de lui, et ça fait longtemps. Et cette fois-ci, il s'est enfermé dans son bateau avec des animaux, rendez-vous compte. Le ciel est bleu comme d'habitude. La vie continue comme d'habitude pendant 7 jours. C'est pas long, 7 jours. Mais imaginez, pour ceux qui étaient dans l'arche, combien ces 7 jours ont été terriblement longs. Dieu leur avait dit, je vais envoyer le déluge. Ils rentrent dans leur bateau, il fait beau, il fait chaud. Rien ne se passe pendant 7 jours. Et je peux imaginer que Noé et sa famille, oh, ils n'en ont peut-être pas parlé, mais dans leur esprit, ont eu des doutes. En se disant, est-ce que j'ai entendu des voix parce que j'avais mangé une pizza un peu trop grasse hier soir? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Ce qui est intéressant, c'est de voir que Dieu a fermé la porte, les jeux sont faits. Il y a 2 groupes maintenant sur la terre, un groupe de gens qui sont perdus et un petit groupe de gens qui sont sauvés. Et même si les jeux sont faits, l'exécution de ce jugement n'arrive pas tout de suite. Il y a un court laps de temps qui nous rappelle ce que nous connaissons sur la fin des temps, ce court laps de temps entre ce que nous appelons la fin du temps de grâce est le moment où Jésus va revenir, où les choses seront définitivement classées. Nous retrouvons en effet dans l'histoire de Noé bien des choses qui nous aident à comprendre ce que Dieu prépare pour les siens à la fin des temps. Et puis, après 7 jours, la pluie tombe. Mais quand elle tombe, elle tombe. Chapitre 7, verset 11 nous dit: l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Le déluge arrive. Et je pense qu'à ce moment-là, ceux qui rigolaient dehors, tout d'un coup ont perdu leur sourire. Ça faisait 120 ans qu'ils se moquaient de Noé. Tout d'un coup, ils s'excusent. Tout d'un coup, ils demandent pitié. Mais Dieu avait fermé la porte. Et souvenez-vous, cette arche n'avait pas de fenêtre. Une seule fenêtre en haut. Dieu avait donné à Noé cette grâce de ne pas pouvoir voir les scènes atroces qui allaient se passer en dehors de l'arche parmi ceux avec qui il avait été jusque-là dans sa vie. Ses amis, tous ceux qui avaient collaboré avec lui pour construire cette arche et qui étaient dehors. Noé n'a rien vu de tout ça et le déluge est arrivé. Il y a dans cette deuxième partie du déluge quelque chose de significatif au verset 23. Il est dit ceci: tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre, il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Il y a ici un mot particulièrement important. Il est dit: il ne resta que Noé. Ce mot va être utilisé dans le reste des Écritures pour désigner une catégorie de gens particuliers. La catégorie de gens qui est fidèle à Dieu et qu'on appelle le reste. C'est la première fois que dans le texte des Écritures, cette notion apparaît. Noé est le premier reste dans les Écritures. Noé et sa famille, Noé et ceux qui sont dans l'arche, représentent le premier reste de toutes les Écritures. C'est un thème que l'on va retrouver jusque dans l'Apocalypse, où vous connaissez ce texte du chapitre 12, où il est question du reste de la postérité de la femme, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Un thème qui va traverser toutes les Écritures tant il est important aux yeux de Dieu, le reste. Noé représente ce reste, et dans les Écritures, le reste est associé au petit nombre, mais surtout à ceux qui sont fidèles, ceux qui sont obéissants, ceux qui ont fait alliance avec Dieu, ceux qui sont finalement sauvés. Le reste, Noé, le premier reste. Le déluge va détruire tout ce qui est sur la terre. Et il nous est dit que les eaux vont rester à leur maximum de hauteur, au-dessus des sommets les plus élevés de l'époque, pendant 5 mois. L'eau va s'arrêter de tomber, les sources de l'abîme vont arrêter de jaillir, le calme va revenir, mais pendant 5 mois, l'eau va couvrir entièrement la planète. Et nous arrivons au chapitre 8. Chapitre 8 et 9, c'est l'après-déluge, c'est le retour progressif à une situation normale. Ces deux chapitres nous racontent comment, dans le temps qui reste, peu à peu l'eau va redescendre. Les sommets vont réapparaître tout doucement. Et vous vous souvenez comment Noé va essayer de savoir ce qui se passe à l'extérieur de son arche. Noé va envoyer d'abord le corbeau, et puis il va envoyer la colombe 2 fois, jusqu'au jour où finalement Dieu va dire à Noé: tu peux sortir de l'arche, parce que l'arche s'est arrêtée sur le sommet du mont Arara, nous dit le texte. Noé va aussi découvrir l'arche pour voir ce qui se passe dehors. Et puis Noé, en sortant de l'arche, va faire quelque chose de particulier. Ça nous a rapporté dans le livre de la Genèse au chapitre 8 et au verset 20. Il est écrit « Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. » Noé bâtit un autel. Imaginez Noé et sa famille qui sortent. Première chose, ils construisent un autel. Ils ont dans le cœur cette reconnaissance envers Dieu de les avoir sauvés, de les avoir aidés à traverser cette épreuve inimaginable. Ils n'ont pas vu le cataclysme qui a bousculé la terre pendant ce temps du déluge. Et maintenant, le voyage est terminé. Ils sont enfin sur la terre ferme. Ils ont une pensée, c'est dire merci à Dieu. En commençant, je vous disais que le monde chrétien va ces temps-ci penser à dire merci à Dieu pour les choses que nous avons, pour le pain sur notre table, pour le toit sur notre tête, pour notre voiture, pour notre maison, pour notre famille. Mais pour le chrétien qui attend le retour de Jésus, il y a bien d'autres raisons d'être reconnaissant à Dieu. La raison principale, c'est que comme pour Noé, nous avons été sauvés en Jésus-Christ. C'est qu'il nous a donné de traverser l'épreuve de la vie et d'arriver sur le rocher qui est Jésus-Christ. Et c'est là, je crois, la raison principale qui doit motiver notre reconnaissance à Dieu. Sans aucun doute, il est approprié de le remercier pour ses bienfaits de chaque jour. Sans aucun doute, il est approprié de reconnaître que toutes ces choses viennent de lui. Mais il est encore bien plus approprié de reconnaître devant Dieu notre petitesse devant le plan du salut qu'il a mis en place pour nous faire traverser le déluge dans ce monde. Il est encore bien plus approprié de lui dire merci pour le salut en Jésus-Christ. Un peu plus loin, dans cette même partie du récit, Dieu va répondre à l'action de Noé, et c'est au chapitre 9, au verset 11. Il est écrit ceci, « J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée dans les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Et Dieu dit, « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » Dieu répond à cette adoration de Noé et de sa famille et lui dit « J'établis mon alliance avec vous. » Il avait déjà fait une première alliance avec lui en le promettant la protection pendant le déluge, mais maintenant, cette alliance prolonge l'action de Dieu dans ce partenariat avec Noé. Une alliance pour laquelle il lui donne un signe, l'arc-en-ciel. Un signe de l'alliance. Et en effet, Dieu ne nous fait pas simplement traverser les épreuves de la vie. Il veut faire une alliance avec nous, une alliance pour l'éternité. Et c'est là encore une raison d'être reconnaissant, d'avoir dans notre cœur cette action de grâce envers Dieu, pour son plan, non pas à court terme dans notre vie maintenant, mais à long terme, pour l'éternité, pour toujours. Ainsi, nous sommes invités à avoir de la reconnaissance dans notre cœur pour le salut que Dieu nous donne, pour l'arche qui représente l'Église et dans laquelle il nous a invités à entrer pour traverser les épreuves de la vie et avancer ensemble dans la même direction, reconnaissant de ce que nous avons été secourus, épargnés, de ce que nous avons été sauvés en Jésus-Christ. Maintenant, je reviens sur ce chapitre 8 et 9. Nous en avions parlé d'ailleurs, si vous vous souvenez, il y a quelque temps en arrière. Le chapitre 8 et 9, qui constitue dans l'histoire du déluge cette partie où peu à peu les choses reviennent à la normale, est un texte tout à fait particulier. Le texte du chapitre 8 et 9 de la Genèse reprend en réalité le thème de Genèse chapitre 1, l'époque de la création, le récit de la création. Et ce chapitre 8 et 9 représente un passage qui est en réalité coupé en 7 parties qui reprennent jour par jour le thème de la création tel qu'il est dans Genèse chapitre 1. Nous l'avions vu il y a quelque temps, permettez que nous le révisions rapidement. C'est important pour notre étude d'aujourd'hui. Genèse chapitre 8, nous avons au verset 1er l'indication que Dieu fit souffler un vent sur la terre pour faire sécher l'eau. Vous vous souvenez que dans le premier jour de la création, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et il n'y avait rien d'autre. Le déluge a fait en sorte que la terre est revenue à la case départ avant le jour 1 de la création, où l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous nous retrouvons à ce moment du déluge comme au moment du début de la création. Au chapitre 8, toujours, du verset 2 au verset 5, se trouve le thème du deuxième jour de la création. Il nous est dit dans ce passage que les eaux se retirèrent de dessus la terre. Vous vous souvenez que dans le deuxième jour, Dieu a séparé les eaux du dessus et les eaux d'en dessous. Il a créé, autrement dit, l'atmosphère autour de la terre. Le thème du troisième jour se trouve dans Genèse, chapitre 8, les versets 6 à 12. Il nous est dit dans ce passage que les eaux ont séché et nous apprenons que la végétation a commencé à pousser déjà, parce que la colombe va revenir avec un rameau d'olivier dans le bec. C'est exactement ce que nous avons dans le thème du troisième jour, où Dieu va séparer le sec de l'eau, la mer, la terre, et va faire pousser sur la terre la végétation. Nous retrouvons exactement ici le même thème. Le quatrième jour se trouve développé, toujours dans Genèse chapitre 8, dans le verset 13 et 14, où il nous est dit que Noé va enfin pouvoir voir le ciel et la lumière. Il va découvrir l'arche. Cette arche qui n'avait qu'une fenêtre était dans les ténèbres pendant longtemps. La lumière va y pénétrer. Et vous vous souvenez comment, dans le texte de la Genèse, au chapitre 1er, le quatrième jour, c'est le jour où Dieu va créer les luminaires pour fixer les temps et les époques. Le thème du cinquième jour se trouve juste après, dans Genèse, chapitre 8, du verset 15 au verset 17, où il nous est dit que Noé va faire sortir les animaux de l'arche. Et il va mentionner, entre autres, les oiseaux, les reptiles et aussi le bétail qui est avec lui. Vous vous souvenez que dans Genèse, chapitre 1, le cinquième jour, c'est le jour où Dieu va créer les oiseaux et les poissons. Et nous le retrouvons encore dans ce passage de Genèse, chapitre 8. Le sixième jour est développé dans Genèse, chapitre 8, depuis le verset 18, jusque dans Genèse, chapitre 9, le verset 7. Là se trouve un passage qui est pratiquement copié intégralement de Genèse, chapitre 1er. Ce sixième jour, c'est le jour où Dieu va créer les animaux et l'homme. Et regardez avec moi ce qui est dit dans Genèse chapitre 9, au verset 1er. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tous les oiseaux du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. » Vous remarquez que nous retrouvons là le thème de ce qui est développé dans Genèse chapitre 1. Ce sont pratiquement les mêmes paroles qui sont données à l'homme et à la femme, leur demandant d'être féconds, de remplir la terre et de recevoir l'herbe verte comme nourriture. C'est effectivement le thème du sixième jour de la création de l'homme. Inévitablement, nous allons trouver encore, juste après, le thème du septième jour. Dans Genèse chapitre 9, du verset 8 jusqu'au verset 17, nous avons le thème du septième jour qui est développé. Et dans ce septième jour se trouve cette alliance dont on a parlé tout à l'heure. Il est dit au verset 11, « J'établis mon alliance avec vous. » C'est le jour de l'alliance. Et c'est aussi le jour du signe de l'alliance. Il est dit au verset 12, « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » Dans Genèse chapitre 2 se trouve le thème du septième jour, le jour du repos. Mais vous vous souvenez maintenant que lorsque Dieu donne le commandement du repos, le quatrième commandement, il l'introduit en disant « Souviens-toi du jour du repos ». Dans le même texte que nous regardons dans Genèse 9, Dieu dit au verset 15 « Je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants ». Ce thème de l'alliance, c'est le thème du sabbat. Le sabbat, c'est en réalité le signe de l'alliance. Gardez votre main dans Genèse chapitre 9 et regardez avec moi ce qui est écrit dans Exode chapitre 31. Exode chapitre 31. Au verset 13, il est écrit « Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Et un peu plus loin, au verset 17, « Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. » Le sabbat, un signe. Le signe de cette alliance. Et c'est une alliance particulière, le texte le précise, vous avez remarqué, un signe auquel on reconnaîtra que c'est l'Éternel qui vous sanctifie. C'est le signe que cette alliance, c'est Dieu qui en est le garant. C'est lui qui en a eu l'initiative, mais c'est aussi lui qui va l'accomplir. C'est lui qui en a les moyens, il est le seul à en avoir les moyens. Alliance de salut, dont le sabbat est le signe. Ainsi, l'histoire du déluge se trouve être l'histoire de la reconnaissance de l'homme face au plan du salut. L'histoire d'une reconnaissance infinie, non seulement pour les choses, mais surtout pour la grâce qui est donnée à l'homme qui ne la mérite pas. L'histoire du déluge, c'est l'histoire de la recréation. Autrement dit, c'est l'histoire typique de ce qui se passe à la fin des temps. Souvenez-vous, Dieu, à la fin des temps, va aussi juger le monde. À un moment où il ne restera plus rien de bon dans le monde, si ce n'est le reste, le petit reste de ceux qui ont fait alliance avec lui, de ceux qui sont fidèles à ses commandements. Ce reste sera protégé aussi à la fin des temps. Mais vous vous souvenez dans les Écritures où il est parlé de ce reste à plusieurs moments de l'histoire, c'est toujours un reste petit et fidèle. À propos de Jérusalem, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 10, il est écrit « Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra, la destruction est résolue, elle fera déborder la justice. » Ainsi le reste fidèle, c'est ce reste que représente Noé, qui va traverser le jugement et qui un jour mettra les pieds sur la terre d'un monde nouveau. On comprend à ce moment-là que l'action de grâce du reste des sauvés, n'a rien à voir avec l'action de grâce que nous vivons maintenant, où nous disons « Merci Seigneur pour le pain d'aujourd'hui et pour le gâteau de demain ». Cette action de grâce va beaucoup plus loin. Elle va jusque dans la reconnaissance de la vie éternelle qui nous est offerte, dans la vie éternelle que reçoivent ceux qui font partie du reste en Jésus-Christ. Le déluge est donc une histoire qui nous conduit dans le monde nouveau. Et l'on peut comprendre à ce moment-là certains passages de l'Apocalypse. Regardez par exemple à l'autre bout de votre Bible, dans Apocalypse chapitre 21. Ce texte que vous avez peut-être déjà lu souvent, en vous demandant avec quoi il était attaché. Apocalypse chapitre 21. Prenez attention aux paroles de ce texte en rapport avec ce que nous venons de voir dans le déluge. Apocalypse 21, verset 1er. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Le déluge est terminé, l'épreuve est terminée, le jugement de Dieu est terminé. C'est maintenant de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est de cela que nous parle l'histoire du déluge, bien longtemps avant qu'elle se réalise par la grâce de Dieu. Maintenant, permettez-moi d'aller un peu plus loin, parce que ce texte est particulièrement significatif. Il est encore plus significatif lorsqu'on regarde le temps dans lequel il se place. Revenez dans Genèse, si vous le voulez, au chapitre 8, où nous étions tout à l'heure. Des indications de temps nous sont données. Genèse, chapitre 8. Il nous est donné le moment où l'arche va s'arrêter. Il est écrit au verset 4. Genèse, chapitre 8, le verset 4. Le septième mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arara. À partir de là commence le retour à la situation normale. La date nous est donnée. Il nous est dit que c'est le septième mois, le 17e jour du mois. Maintenant, peu importe comment les années sont organisées, il y a là une date que Dieu donne et qui est significative dans le reste de l'histoire du peuple de Dieu. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 23, se trouvent rapportées les sept fêtes d'Israël. Et curieusement, les deux dernières fêtes se trouvent dans le septième mois. Lorsque l'on prend la date où l'arche s'est arrêtée sur le mont Ararat, le moment où Noé est arrivé, le moment où le voyage est terminé, cette date tombe juste à la fin de la fête des expiations et au début de la fête des tabernacles. Or, souvenez-vous, la fête des expiations, c'est une fête qui représente le jugement de Dieu. Et nous voyons là le parallèle avec le déluge qui vient de s'achever dans l'histoire de Noé. La fête du tabernacle, c'est cette fête où l'on se souvenait que l'on avait traversé le désert et que l'on rentrait maintenant dans la terre promise. Regardez dans Lévitique chapitre 23 comment est exprimée la joie de cette dernière fête. Lévitique chapitre 23. Nous n'irons qu'un passage, un extrait du texte qui parle de cette fête et je vous propose de suivre la lecture dans Lévitique 23 à partir du verset 40. Vous prendrez le premier jour des fruits, des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et de saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Au moment où le peuple sort de ses tentes et vient jouir des bénédictions de la terre promise, Dieu donne une fête pour se souvenir qu'ils ont été libérés du désert, qu'ils ont été libérés du déluge. Le moment où l'arche s'arrête sur le mont Ararat correspond justement au début de la fête des tabernacles, qui représente l'entrée du peuple de Dieu dans la Canaan céleste. Ainsi, nous nous retrouvons dans le thème de l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 7, une question intéressante est posée, qui nous rappelle ce dont nous parlons. Apocalypse, chapitre 7. Au verset 13, il est écrit ceci. Apocalypse, chapitre 7, verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Qui sont ces gens qui ont ces robes blanches et qui rentrent dans les parvis célestes? Jean renvoie la question à celui qui lui a posé et qui lui répond « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. » C'est le reste qui a traversé le désert, c'est le reste qui a traversé le déluge et qui finalement arrive dans le monde nouveau. Il y a là un lien avec tous les enseignements des Écritures. Et si l'on voulait aller plus loin, en étudiant cette fête des tabernacles, on découvrirait que chacun des 7 jours de cette fête, Dieu avait prescrit un nombre décroissant de sacrifices à accomplir chaque jour. Dans l'histoire de Noé, l'eau, chaque jour, va décroissante jusqu'à découvrir le monde nouveau que Dieu a offert au reste que Noé représente. L'histoire du déluge n'est pas l'histoire simplement d'un cataclysme, l'histoire d'un drame dans l'humanité. C'est l'histoire du salut que Dieu offre au reste, à ceux qui veulent faire partie du reste, à ceux qui veulent entrer dans l'arche, à ceux qui veulent, par leur obéissance, entrer dans l'alliance avec Dieu. C'est l'histoire de tous ceux qui, à la fin des temps, veulent garder dans leur cœur cet amour et cette reconnaissance, non seulement pour les choses que Dieu nous donne, mais pour la vie qu'il offre en Jésus-Christ, pour le salut qu'il donne à tous ceux qui veulent être partie prenante de ce reste, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen.